Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, Amégro Didier avec vous pour cette édition de Carrefour Sciences et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. 5 tonnes d'ivoire ont été brûlées cette semaine à Brazzaville alors que les pays africains élaborent une stratégie panafricaine de lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore qui menace le continent.
Il s'agit de la patrimoine mondial. La destruction de flore et de faune sauvage peut avoir un impact néfaste sur la santé humaine. C'est l'écosystème dans lequel nous vivons aussi. Donc s'il y a une partie qui est détruite, ça aura forcément un impact sur la vie humaine.
On suivra les précisions d'Anthony Oemeng-Bohama, coordinateur résident des Nations Unies à Brazzaville. Santa Cruz, en Californie, accueillait cette semaine une conférence des fabricants de drones. Les systèmes pour combattre la résistance aux antibiotiques manquent dans toutes les régions du monde, avertit l'Organisation mondiale de la santé.
Certains pays ont pris conscience du problème très récemment seulement, mais là, nos États membres, en fait, à l'Assemblée mondiale de la santé, vont adopter un plan mondial de lutte contre la résistance aux antibiotiques.
On entendra le docteur Sylvie Bryan de l'OMS. Et aimeriez-vous mettre un requin dans votre poche? Eh bien, c'est possible, figurez-vous, car il en existe qui ne mesure que 14 cm de longueur à l'âge adulte. Ils sont mignons comme tout et ils sont très loin des géants des dents de la mer. Dans le cadre de la lutte contre le braconnage, 5 tonnes d'ivoire ont été brûlées cette semaine à Brazzaville. But de l'opération, décourager les braconniers et des éléphants. Les membres de la société civile des divers pays ont salué cet acte qui, selon eux, annule la valeur commerciale de l'ivoire sur le marché international. Un appel a même été lancé pour renforcer les mesures de lutte contre le braconnage depuis les forêts jusqu'au marché. La cérémonie a eu lieu peu avant l'annonce à Brazzaville de la première stratégie panafricaine de lutte contre le commerce illicite de la faune et de la flore. Un document qui sera pris en compte lors du sommet de l'Union africaine prévu en juin à Johannesburg en Afrique du Sud. D'autres précisions avec Anthony Oemeng-Bohama, coordinateur résident des Nations Unies à Brazzaville, qui commente tout d'abord la destruction des défenses d'éléphants.
Je crois que c'est un symbole du Congo et aussi de la plupart des pays africains qui étaient représentés pour montrer qu'on n'accepte pas que les éléphants soient tués et que ce symbolisme, je crois aussi, pourrait toujours rappeler aux gens que vaut mieux laisser les vents vivants que de les tuer. Pour des cérémonies comme ça et pour des conférences comme ça, je crois que c'est des signaux qui restent avec les gens, qui permettent à ce qu'on se souvienne de décisions qui ont été prises.
Alors, cette conférence devait être l'occasion d'annoncer la première stratégie panafricaine pour lutter contre le commerce illicite de la flore et de la faune. Est-ce que cela a été fait?
Oui, on a un brouillon parce que essentiellement c'est les chefs d'État de l'Union africaine qui doivent adopter, je dirais, la stratégie finale. Donc il y a un brouillon qui sera discuté au Caire le 24 mai pendant une réunion de ministères africains. Et puis les suggestions seront tenues en compte, quitte à permettre à l'Union africaine de travailler avec le Congo pour sortir notre brouillon que le Congo doit présenter à travers son chef d'État à la réunion de chef d'État de l'Union africaine prévue pour le mois de juin. Donc il y a un brouillon qui sortira de cette conférence, oui.
Le trafic de la faune et de la flore a un impact particulièrement néfaste sur les pays africains. Pourquoi?
Je crois que pour deux ou trois raisons. La première raison, c'est qu'il s'agit de la patrimoine mondial. La destruction de flore et de faune sauvage peut avoir un impact néfaste sur la santé humaine. c'est l'écosystème dans lequel nous vivons aussi. Donc s'il y a une partie qui est détruite, ça aura forcément un impact sur la vie humaine. Et puis troisièmement, je crois aussi que ça a un impact sur le développement socio-économique des pays concernés. Donc sur tous les plans, je crois qu'on doit toujours travailler à interdire cette activité néfaste qui a des conséquences néfastes dans tous les domaines.
Mais il y a des régions d'Afrique, on songe notamment au Tchad, au Congo, où en fait le trafic des espèces alimente l'insécurité, les conflits ou encore la corruption.
Bon, essentiellement ça aussi c'est un souci, parce que selon les experts, la sophistication avec laquelle les braconniers font le travail nous rappelle des bandits, des groupes mafieux, c'est comme des trafiquants de drogue en fait. Ils sont bien organisés. Donc, si on tient en compte aussi que dans certaines parties de l'Afrique, il y a une insécurité qui sévise, je crois que ça nous porte des doubles enjeux, des enjeux très dangereux qui doivent attirer l'attention des pays concernés. Je crois que c'est ça aussi qui a été discuté ici. Donc, il faut prévenir à ce que les braconniers ne soient pas alliés de ceux qui sèment les insécurités dans des pays africains pour pouvoir continuer à faire leur trafic.
En même temps que l'insécurité, en fait, les braconniers représentent pour les États un immense manque à gagner.
C'est vrai, parce qu'on a des études qui montrent que même pour l'année 2013, le trafic des flore et faune sauvage illicite a rapporté aux alentours de 17 milliards de dollars américains. Et ça, franchement, c'est des montants qu'on entend parler quand on parle de trafiquants de drogue. Donc vous pouvez comprendre que essentiellement c'est quelque chose qui n'est pas bon à tolérer et je crois que le monde entier doit se unir pour chercher à vraiment endiguer ce fléau.
Alors au niveau des particuliers, que peuvent-ils faire?
Bon, le particulier, je crois qu'on doit sensibiliser. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que les États doivent s'engager vraiment à donner des moyens de subsistance à les populations dans un endroit reculé, pour que les citoyens ne deviennent pas un allié involontaire des braconniers.
Du côté des acheteurs, parce qu'en fait, ces trafics, il n'y a pas seulement l'offre, il y a la demande. Et la demande reste énorme, notamment en Asie. Quel serait votre message à l'acheteur, le consommateur asiatique, qui verrait un objet en ivoire et qui se dirait « Oh, ça serait joli sur mon étagère ».
Quand le message qui est sorti de la conférence, c'est que c'est un trafic qui concerne le monde entier. Premièrement, on est en train de perdre des espèces vraiment qu'on doit considérer comme des patrimoines mondiaux. Deuxièmement, comme vous venez de constater, il y a l'offre, il y a la demande, il y a les transporteurs, il y a les services de sécurité, il y a les services de douaniers sur toute la chaîne. Donc on doit engager tout le monde de source jusqu'au marché pour qu'on soit conscient de la dangerosité de cette activité néfaste. Et bien sûr, il faut une gouvernance mondiale qui prendra ce sujet-là au sérieux pour qu'on puisse endiguer ces fléaux.
On écoutait M. Anthony Oemeng Bohama, coordinateur résident des Nations Unies. Il était joint à Brazzaville. Toujours concernant la faune sauvage, on signale que le parc national des Virunga a récemment fêté son 90e anniversaire, une fête à laquelle se sont jointes une quarantaine d'ONG locales, des organisations de la société civile représentant les populations riveraines du site. Les partenaires locaux de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont profité de l'occasion pour évaluer les valeurs économiques et biologiques du site, ainsi que les menaces qui pèsent sur le parc des Virunga et ses ressources. Ici Washington, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Carrefour Science et Santé. On se dirige vers la Californie. Eh bien, Santa Cruz, en Californie, accueillait cette semaine une conférence des fabricants de drones, d'investisseurs et d'inventeurs. Le point avec Michel Joseph.
Certes, les drones ont mauvaise réputation, étant fréquemment évoqués suite à des frappes militaires à l'étranger. Mais à l'occasion de la Drones Data X Conference, des experts ont démontré leurs atouts, notamment leur capacité à établir des cartes précises de régions reculées, à participer à la rescousse de nageurs ou randonneurs perdus, ou encore à filmer des scènes à des prix modiques pour les réalisateurs. On s'attend à ce que les investissements dans le secteur doublent en 10 ans pour atteindre jusqu'à 11 milliards de dollars par an, affirme la firme Teal Group, spécialiste du secteur. Le géant de l'Internet, Facebook, a récemment annoncé la réussite du premier vol de son drone solaire baptisé Aquila, qui permettrait d'apporter un accès à Internet dans des zones reculées ou sans infrastructures existantes comme en Afrique. Fabriqué par la société britannique Ascenta, ce drone ferait l'intermédiaire entre les satellites et le sol. L'enjeu est de taille. Les 2/3 de la population mondiale ne sont pas encore connectés, selon Facebook. Par ailleurs, Amazon teste son service de livraison par drone en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada. La législation canadienne semble plus flexible que les mesures draconiennes concernant l'utilisation commerciale des drones de la Federal Aviation Administration, l'agence chargée du contrôle aérien aux États-Unis.
Ici Washington, Camille Grosdidier, vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé, un programme qui vous est offert par VOA Afrique. Les téléphones mobiles au secours des victimes de séismes? Eh bien oui, des experts affirment que les capteurs de nos smartphones peuvent annoncer un tremblement de terre. Et ils ont publié leurs travaux dans la revue New Scientist. Le point avec Jean-Roger Bion.
Des pays où les séismes sont fréquents, tels que les États-Unis ou encore le Japon, disposent de vastes réseaux d'alerte dotés de capteurs très précis de secousses sismiques. Mais tout cela coûte cher, explique Ben Brooks, chercheur du US Geological Survey, l'instance gouvernementale chargée de l'étude et de la surveillance du risque sismique aux États-Unis.
De nombreuses régions du monde ne disposent pas des ressources nécessaires pour s'offrir un réseau scientifique de qualité.
Par contre, un nombre croissant d'usagers sont dotés à travers le monde de cellulaires ou tablettes équipées de systèmes de géolocalisation et d'accéléromètres qui peuvent constituer un système antisismique bon marché, mais efficace. Si ces instruments et données sont moins fiables que ceux dont disposent les pays industrialisés, ils compensent par leur nombre faramineux, estime le géophysicien Michael Bevis de l'Université de l'Ohio aux États-Unis.
Si vous disposez de centaines et de centaines de mesures, peut-être que chacune ne sera pas très précise, mais la moyenne produite par des centaines d'usagers dans un secteur précis est probablement fiable.
Très vite et de manière automatique, grâce par exemple à un logiciel d'analyse situé dans un serveur, des messages d'alerte aux autres usagers. Pour tester leur théorie, M. Brooks et ses collègues ont procédé à un simulacre de séisme de magnitude 7 près de San Francisco. Ils ont découvert qu'en restant branchés sur moins de 5000 cellulaires, ils pouvaient détecter le tremblement de terre et donner l'alerte 5 secondes après qu'il ait commencé, ce qui donnerait le temps aux gens de se jeter sous un bureau ou de sortir avant l'arrivée de secousses les plus prononcées. Évidemment, note Michael Bevis, rien n'est parfait. Dans le cas du tremblement de terre catastrophique de magnitude 8,8 qui a frappé le Chili en 2010, le réseau de téléphones mobiles a été parmi les premiers à s'effondrer. Néanmoins, à l'absence d'alternative, un système d'alerte à partir de capteurs d'accélération et de géolocalisation reste une option.
Pour Carrefour Science et Santé, les tremblements de terre sont d'actualité ici aux États-Unis, même s'ils n'atteignent pas, du moins pour l'instant, l'ampleur de celui survenu au Népal. Voilà, une série de nouvelles études conclut que la hausse récente du nombre de tremblements de terre aux États-Unis, notamment dans l'Oklahoma, serait directement liée à l'exploitation du gaz de schiste. Chérubin Dorsil.
On savait depuis longtemps que les forages de puits de pétrole ou la fracturation hydraulique peuvent provoquer des petits séismes. Mais le phénomène prend une ampleur inattendue, expliquent des travaux publiés dans la revue Science. Le US Geological Survey vient de publier une nouvelle étude portant sur 17 régions dans 8 États du centre et de l'ouest des États-Unis, désignées comme étant vulnérables aux tremblements de terre. Traditionnellement, les séismes sont associés à la côte ouest des États-Unis, notamment la Californie ou l'Alaska. Mais ces dernières années, la production de gaz de schiste a pris un essor inédit dans le centre du pays notamment. Cette hausse soutenue de la production est allée de pair avec une hausse exponentielle du nombre de séismes de plus de 3 sur l'échelle de Richter, souligne l'étude publiée dans la revue Science. À titre d'exemple, avant 2008, l'Oklahoma connaissait en moyenne 2 tremblements de terre par an, chiffrés à plus de 3 sur l'échelle de Richter. De nos jours, le rythme est passé à 1 ou 2 par jour. Les scientifiques pointent du doigt la technique dite du fracking, la fracturation hydraulique, un procédé qui consiste à injecter un fluide sous très haute pression dans la roche pour la fissurer et micro-fissurer. En libérant le gaz ou le pétrole, le fluide déséquilibre les roches. Par ailleurs, le processus nécessite une quantité massive de liquide qui est réinjecté par les producteurs dans le sol pour s'en débarrasser, ce qui facilite probablement les séismes, expliquent les géologues. La situation ne s'améliore pas, constate Roger Musson du British Geological Survey. L'État de l'Oklahoma a d'ailleurs admis récemment le lien très probable entre la hausse récente des tremblements de terre et la technique du fracking. L'inquiétude étant que les secousses, aujourd'hui relativement faibles, n'empirent. Déjà en 2011, un séisme de 5,6 sur l'échelle de Richter a frappé l'Oklahoma. Certains experts avertissent qu'une secousse encore plus importante pourrait survenir.
Ici Washington, la Voix de l'Amérique, Camille Grosdidier pour Carrefour Science et Santé. Quelques autres nouvelles de l'actualité scientifique avec Morgan Guiriec.
Un requin dans votre poche, c'est possible. Cette rarissime et minuscule petite bête, capturée en 2010, n'est pas plus grande que votre doigt. Les chercheurs de la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, en parlaient récemment. Ils ont expliqué qu'il s'agit du deuxième spécimen d'une espèce rarissime, connue sous le nom de requin de poche. Et rien à voir avec le monstre du film d'horreur américain de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer. Il faut dire que les requins forment un ordre de poissons cartilagineux particulièrement diversifié, avec d'un côté les énormes spécimens repérés au large des côtes d'Afrique du Sud ou d'Australie, capables d'engouffrer des phoques entiers dans leurs mâchoires, et d'autre part, de minuscules sujets comme ces requins de poche. Seuls 2 individus de cette espèce extrêmement rare ont été pour le moment identifiés. Le deuxième, décrit par les chercheurs de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, mesure moins de 14 cm de long et avait été trouvé dans le golfe du Mexique. Réduire, réutiliser et recycler est le mantra des sociétés aujourd'hui, mais certains objets sont plus faciles à recaser que d'autres. Que faire d'une voiture par exemple ? Eh bien, dans la région de Washington DC, la capitale américaine, on les déchiquette tout simplement. Telle est la mission de Davis Industries, l'une des quelques 350 sociétés américaines capables de réduire en morceaux des véhicules, et ce en moins d'une minute.
Une voiture peut être déchiquetée dans le broyeur en 38 secondes. À l'autre bout de la chaîne, ce qui ressort à la taille de votre poing.
Il ne s'agit pas seulement de recycler, mais également d'empêcher que des montagnes de rejets n'aboutissent à des décharges déjà submergées.
Chaque année, nous traitons plus de 150 000 tonnes de déchets. Dans le cas contraire, il faudrait remplir un stade de football de 170 mètres de profondeur.
À l'heure actuelle, près de 40% de la production mondiale d'acier est composée de produits recyclés, soit quelque 73 millions de tonnes par an.
Vous Vous êtes à l'écoute de Carrefour Science et Santé. Eh bien, une enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé montre que seulement un quart des pays interrogés par l'agence onusienne ont des plans pour préserver les médicaments antimicrobiens comme les antibiotiques. Cette enquête sur la réponse des pays à la résistance aux antimicrobiens révèle que malgré toutes les activités en cours et les nombreux gouvernements qui se sont engagés à résoudre ce problème, il subsiste des lacunes majeures au niveau des actions nécessaires. Pour plus de précision, on écoute le docteur Sylvia Bryan de l'OMS.
Si vous voulez, la résistance aux antibiotiques, c'est un phénomène qui est multifactoriel et qui donc a un impact effectivement sur la santé, mais la source du problème n'est pas que dans le secteur santé.
Dans quel autre secteur ?
Les antibiotiques sont utilisés dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage et dans le secteur de la santé, bien entendu. Et donc, l'utilisation de ces antibiotiques a un impact, en fait, sur la montée de la résistance aux antibiotiques. Et donc, les solutions sont en partie dans le secteur santé, puisque c'est quand même là où on en utilise beaucoup. Mais il faut qu'il y ait une collaboration multisectorielle. Et donc, ça n'est pas toujours très facile à instaurer. Et c'est pour ça que ça a pris du temps entre le moment où les pays prennent conscience que le problème est là et le moment où des activités prennent place et sont organisées collectivement au niveau du pays.
Le rapport de l'OMS note que peu de pays, seulement 34 sur les 133 qui ont participé à l'enquête, sont dotés d'un plan national complet pour lutter contre la résistance aux antibiotiques.
Oui, parce que certains pays ont pris conscience du problème très récemment seulement. Mais là, nos États membres, en fait, à l'Assemblée mondiale de la santé, vont adopter un plan mondial de lutte contre la résistance aux antibiotiques. Et donc, ce plan va encourager tous les États membres à mettre en place des actions contre la résistance aux antibiotiques. Donc ce rapport, en fait, était un peu un état des lieux avant l'adoption de ce plan pour qu'on puisse, dans les années à venir, montrer comment l'engagement international fait changer les choses.
Et l'OMS juge qu'un suivi sera essentiel pour juguler la résistance aux antibiotiques.
Oui, parce qu'en fait, on se rend compte que ce n'est pas un problème seulement national. En fait, vous savez, les bactéries, elles ne respectent pas les frontières. Donc, une bactérie multirésistante, en fait, va voyager avec les gens. Et donc, tous les pays peuvent être touchés par ce problème-là. C'est une mobilisation mondiale qui est nécessaire. Que certains pays soient déjà mobilisés, c'est très important, parce que ça permet de voir effectivement quelles sont les interventions qui sont les plus efficaces. Mais ça ne suffit pas pour contrôler le problème au niveau mondial. Donc il faudra faire un suivi pour être sûr que tous les pays en fait rentrent dans cette dynamique et mettent en œuvre des interventions qui vont faire changer les choses pour les décennies à venir.
La vente d'antibiotiques sans ordonnance reste libre dans nombre de pays. Et en fait, beaucoup de gens vont à la pharmacie, ils prennent des antibiotiques parce qu'ils n'ont pas de quoi se payer le médecin ou il n'y a pas de médecin. Comment lutter contre cette pratique ?
C'est effectivement une pratique qui favorise la résistance aux antibiotiques, puisque ça sélectionne en fait les bactéries qui sont les plus résistantes. L'important, c'est d'une part d'informer les gens, de leur montrer quels sont les risques pour eux-mêmes aussi, parce que prendre un traitement qui n'est pas le bon traitement, bon, ça peut aussi avoir des effets secondaires, mais aussi faire prendre conscience au gouvernement que c'est important qu'il y ait des régulations dans ce domaine. Et évidemment, ça ne peut pas être que des régulations en empêchant les gens de faire les choses, mais justement de proposer aussi un meilleur système de santé et des services de soins qui permettent aux gens d'avoir les conseils au bon moment.
Il y a encore beaucoup de gens qui pensent en fait qu'on peut prendre des antibiotiques pour soigner des infections virales, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ?
Alors non, parce que les antibiotiques en fait sont des médicaments qui ont une activité particulière sur les bactéries. Pour les virus, en fait, il faut des antiviraux. Donc c'est d'autres types de médicaments.
On écoutait le docteur Sylvia Bryan de l'OMS. Elle était jointe à Genève. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier qui vous remercie de l'avoir suivie.